Médias.
Médias. Podcast.
Médias. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, nous allons au-delà de l'apparence, au-delà de ce qui est visible et surtout au-delà de ce qui est acceptable. Autre précision, ce podcast est également disponible en version vidéo sur la chaîne YouTube de Mehdi 1.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Leïla Ben Ammar, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va Leïla?
Ça va très bien, alhamdoulilah. Et surtout, merci à toi de m'avoir choisie pour être la femme de ton jour.
Écoute,
et je suis honorée, vraiment.
Mais ça me met mal à l'aise quand les femmes me disent « merci de m'avoir choisie ». Pas du tout, Blex. Moi, c'est... au contraire, je suis fière et contente de la confiance que vous, les femmes, vous mettez en moi au point de venir discuter avec moi de vous, de ce qui fait de vous les femmes que vous êtes aujourd'hui. Donc, c'est moi qui te remercie d'être là. C'est moi qui te remercie de m'avoir fait confiance. Et c'est moi qui te remercie de venir continuer à cultiver un petit peu l'esprit de communauté qu'on a réussi à créer avec Femmes d'aujourd'hui. Et c'est la première en vidéo d'ailleurs. Et merci beaucoup d'être là pour moi par rapport à l'évolution de ce podcast. Leïla,
dis-moi.
Alors, moi, je te connais très bien en tant que médecin, parce qu'on a fait des émissions ensemble avant. Et au fur et à mesure des discussions, quand on se retrouvait pour les tournages, je découvrais la femme derrière. Et pour être honnête avec toi, c'est ce qui m'a aussi donné, depuis ce moment-là, depuis On se dit tout, depuis plusieurs années, l'envie de faire partager les histoires des femmes qui venaient sur le plateau, que je rencontrais dans Matinée Conseil, dans Matinée Maghrébine, toutes les émissions que j'ai pu faire avant de démarrer l'interview pro. Scientifique, c'est bien sûr aussi l'humain qui discute. Et je me disais, si seulement les gens pouvaient savoir qui c'était cette personne, si seulement les gens pouvaient... Et l'idée a mûri, au fur et à mesure, il y a eu aussi Routine Eliaoumi qui m'a pris moi à la gorge. Je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose pour la femme marocaine, mes chères Routine Eliaoumi. Et d'où en fait la naissance de Femmes d'aujourd'hui et qui est en gestation depuis pratiquement une dizaine d'années. J'ai connu à travers les discussions avant de démarrer les interviews, tout ça, une autre Leïla. Une femme qui n'a pas eu un parcours de vie évident. Quand on voit la spécialiste que tu es devenue, le médecin, cabinet, etc., on se dit oui, la vie lui a réussi, la vie lui a très vite souri. Est-ce que c'est vrai?
Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai eu effectivement un parcours professionnel sans faute. Mais j'enchaînais d'embûches, hein, ça a été très très dur les études de médecine parce que je ne voulais pas que être médecin, je voulais être un très bon médecin. Donc quelque part ça m'a bouffé mes plus belles années. Hein. On démarre la médecine quand on a 18 ans, on termine quand on a dans les meilleurs délais 30-31 ans. Ce sont les plus belles années qui sautent où on apprend à être médecin. Mais on n'apprend pas les choses de la vie, malheureusement, lorsqu'on veut vraiment se consacrer à ses études.
Derrière la blouse blanche, c'est aussi compliqué d'être femme médecin.
Crois-moi, Yasmine, que la femme médecin, elle a beaucoup de problèmes. Quand elle se marie avec un non-médecin, il ne comprend pas que la femme s'investisse autant dans ses études. Quand elle se marie avec un médecin, l'homme a toujours envie que la femme ne lui fasse pas trop d'ombre. Donc, quand il épouse une femme médecin, moi, mes copines qui se sont mariées avec des médecins, elles ont eu des problèmes par la suite. Il y en a beaucoup qui ont divorcé, enfin, qui ont été répudiées plutôt, et le mari s'est marié avec une femme qui ne va pas lui faire de l'ombre pour dire les choses de manière crue.
Tu te rendais compte à ce moment-là que tu faisais beaucoup de sacrifices?
Je m'en rendais compte. Parce que je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé, parce que c'est quand même assez, assez particulier. Mais là revient le problème de la peur de la société. J'ai accepté des choses et j'ai vécu des choses qu'aujourd'hui, je n'accepterai jamais. Parce que j'avais peur de la société, j'avais peur du divorce. Parce que quelque part, j'ai toujours cru, enfin, on m'a élevée dans le fait que même si une femme... Elle arrive, elle réussit en tant que femme, elle réussit sur le plan professionnel. Si ce n'est pas d'abord une épouse ou une mère, elle ne vaut pas grand-chose. aux yeux de la société. Ça, je parle d'il y a 20 ans en arrière. Les choses ont certainement changé aujourd'hui. Mais le statut de femme mariée était quelque chose d'important. Et donc, pour ne pas me retrouver dans la peau d'une femme divorcée, j'ai accepté des choses qui étaient quand même extrêmement dures, qu'aujourd'hui, je n'accepterai pas. Et qu'aujourd'hui, je dis à mes jeunes patientes, quand elles viennent me voir, parce que je parle beaucoup, beaucoup avec mes patientes, et je veux partager avec elles mes expériences, mes échecs, mes réussites, en leur disant, il faut que vous, en tant que femme, vous restiez une femme. Vous ne pouvez pas devenir l'épouse, la mère, la femme de ménage, et pas la femme. Pour que vous restiez la femme, il faut que vous vous épanouissiez dans votre travail. Il faut que vous terminiez vos études. Il faut que vous ayez une indépendance financière. C'est très important. Parce que je n'ai pas envie qu'elles vivent ce que moi j'ai vécu. J'ai envie qu'elles vivent dans la dignité. C'est ce mot-là qui est important pour moi. C'est-à-dire le mariage, c'est le partage. On ne se marie pas pour manger et boire. Hein. On mange et on boit chez nos parents et on vit dignement chez nos parents. On se marie pour partager des choses, mais surtout pour vivre en gardant sa fierté et sa dignité. C'est ça ce qui est le plus important pour moi et c'est ça ce que j'ai perdu pendant ma vie conjugale. Et c'est peut-être la chose que j'ai le plus regrettée après avoir divorcé, c'est de ne pas avoir pris cette décision avant parce que j'ai fait fi de ma dignité. Pour la société, pour ce qu'on dira-t-on, pour attention, pourquoi elle a divorcé, qu'est-ce qui s'est passé, masbartish, medretish, parce qu'on ne s'adresse jamais à l'homme en ces termes, on ne dit jamais à l'homme masbartish. Il n'y a qu'à la femme qu'on dit masbartish, elle peut subir des traumatismes physiques, psychologiques, verbaux, mais khsat sbar. Et encore plus quand on lui dit, wa'indek oulidat sbar alel oulidat. Moi, le jour où j'ai divorcé, j'ai dit clairement, je vais divorcer. Pour mon enfant. Parce que je pense qu'une maman qui n'est pas heureuse ne peut pas faire un enfant heureux ou équilibré. Il faut qu'elle soit heureuse et épanouie et qu'elle soit réconciliée avec elle-même pour donner une génération qui va être bien et qui va être respectueuse. Il fallait que je ne voulais pas que mon fils grandisse dans une situation où il va falloir voir sa maman qui n'est pas traitée de manière digne parce que peut-être qu'un jour, il refera la même chose. Lui aussi, un jour, il va manquer de respect à sa femme, peut-être parce qu'il aura vu ces choses-là.
Alors, pendant ces années-là, où tu étais encore étudiante, où tu étais mariée, où justement ta dignité était bafouée, est-ce que ton entourage s'en rendait compte? Ou bien, est-ce qu'à ce moment-là, on va dire, tu le cachais bien? Tu savais bien jouer la comédie?
Je le cachais très bien. Je suis une grande comédienne. Je l'ai aussi bien caché à mes parents, parce que je ne voulais pas les blesser, je ne voulais pas voir mes parents dévastés, qu'au niveau de mon travail, parce que je ne voulais pas qu'il soit dit qu'on t'a fait réussir par pitié. Ou que les gens sachent, moi j'étais en pleine instance de divorce pendant mes examens de fin de spécialité, j'étais enceinte à l'époque. Et j'ai passé mes examens en menace d'accouchement prématuré, dans les pires conditions qu'on puisse imaginer. Mais je n'avais qu'un objectif, c'est réussir mon diplôme parce que je me dis que la seule chose qu'on puisse contrôler, c'est ce que nous on fait. Ce sont nos études. Si tu étudies, tu vas réussir. Si tu travailles, tu vas réussir. La vie conjugale, c'est cède. Donc ce n'est pas des choses qu'on peut contrôler. Il y a des choses qu'on peut contrôler et donc il n'est pas question. Il n'était pas question, en tout cas pour moi, qui suis très têtue de nature, de gâcher aussi bien ma vie conjugale que ma vie professionnelle. Donc j'ai beaucoup pris sur moi, je n'en ai pas parlé, je ne racontais pas ce qui m'arrivait. Et c'est ce qui a fait que quand j'ai divorcé, je n'ai pas eu de soutien. Parce que les gens ne comprenaient pas, puisque je n'en avais pas parlé, puisque j'avais subi en silence. Et ça aussi, c'est une erreur que j'estime qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas s'isoler parce que déjà, lorsqu'on n'est pas heureux dans sa vie conjugale, on est déjà isolé. Émotionnellement, c'est très dur. Alors quand en plus on s'isole de la société, là aussi peut-être par fierté, peut-être pour préserver ses parents, pour préserver sa famille ou pour ne pas subir Schmetz. Il y a beaucoup de choses. On souffre encore plus. Le partage, c'est bien. Raconter, évacuer et puis peut-être avoir des conseils, peut-être apprendre de ses erreurs, peut-être.
Et c'est pour ça que toi, tu en parles justement aussi avec tes patientes, ouvertement. C'est que
il m'arrive.
Ouais. Oui. Tu n'es pas que le médecin.
Non.
Technique. Mais
non.
Tu es aussi.
Je réussis toujours, vu ce que j'ai vécu, à savoir quand une patiente rentre chez moi, est-ce qu'elle est mal. Quand je sais qu'elle est mal, je vais tout faire pour la pousser dans ses retranchements et pour savoir pourquoi elle est mal. Le fait qu'elle évacue, le fait qu'elle en parle, le fait qu'elle elle voit qu'il y a du soutien, le fait que je l'encourage à aller de l'avant, le fait que je l'encourage à redevenir une femme, je vois le résultat après de, de mon travail. Parce que finalement, la peau, c'est le miroir de l'âme. Si une personne est mal, si elle est malheureuse, quoi qu'on puisse lui administrer comme traitement, quoi qu'on puisse faire, elle sera toujours mal. Et des fois, ils me disent, vous savez, docteur Anaïr, je me sens bien. Il y a aussi pas mal de maladies dermatologiques qui sont déclenchées uniquement par le stress, comme les prurites psychogènes. Il suffit que la patiente elle évacue et qu'on l'aide un petit peu. Des fois, elle est dans le tort, des fois, elle a raison. Ça ne veut pas dire que c'est toujours les hommes qui ont tort. On ne va pas commencer à tout leur mettre sur le dos. Des fois, c'est deux bonnes personnes, mais qui ne sont pas compatibles. Des fois, c'est une mauvaise gestion. Mais j'implique maintenant en permanence le côté psychologique dans mes consultations. Parce que je pense qu'au final, la souffrance t'apprend l'empathie. Les gens qui n'ont pas vraiment souffert n'évoluent pas émotionnellement. Et les gens qui ont souffert, ils n'ont pas envie que les autres souffrent de la même manière. Donc on ressent leur souffrance et on essaye de les aider. Et je pense que des fois ça marche.
Alors, en t'écoutant, j'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, que très tôt, ce qui a pris le dessus sur toi, sur ta personne, c'est l'excellence académique.
Oui.
L'apprentissage de l'excellence académique et la réussite, de façon peut-être consciente et inconsciente. Et donc, du coup, la femme en toi, la jeune femme en toi, la femme en toi, n'a pu éclore qu'après être passée par la grande crise du mariage, du divorce, etc. Avant, c'était je dois réussir et mon image doit être parfaite.
C'est tout à fait ça. J'ai l'impression de parler à un psychologue. Je voulais être parfaite sur le plan professionnel, être
c'est
toujours
l'éducation.
La première. C'est l'éducation. En fait, je m'infligeais moi-même cette torture. Pour moi, ce n'était pas réussir, c'était être la première. Il m'est arrivé une fois ou deux fois d'être deuxième, j'en ai pleuré. J'ai jamais accepté d'être la deuxième.
Même à l'école, au collège.
Non, exclu. C'était pas pour moi, c'était pas envisageable. C'était comme une forme d'échec.
Et pourquoi ?
Je ne pourrais pas dire pourquoi. Je ne sais pas. J'ai des parents qui ont toujours été très fiers de moi, mais qui ne l'exprimaient pas. Et je pense que j'attendais toujours que ce soit exprimé verbalement. Et donc j'essayais toujours de faire mieux. Pour
avoir la reconnaissance.
Avoir cette reconnaissance morale. Donc, le fait que j'ai consacré énormément de temps à mes études, j'en ai pas consacré assez à mon intelligence émotionnelle.
À la vie.
À la vie, aux expériences, au côté humain. Et donc, ça m'a joué de mauvais tours. Et comme tu dis si bien, je ne suis devenue femme que beaucoup plus tard. C'est quand j'ai appris que tant que je ne m'aimais pas, tant que je ne m'appréciais pas, je n'allais pas évoluer parce que je ne dégageais pas de la confiance. Donc même sur le plan professionnel, au final, après tout ce parcours qui était sans faute, je n'ai pas pu démarrer très rapidement. Alors qu'il y a des gens qui étaient avec moi, qui ont étudié avec moi, qui n'avaient pas forcément un niveau exceptionnel, mais qui ont réussi beaucoup plus vite dans le milieu professionnel parce qu'ils avaient confiance en eux ou parce qu'ils avaient une expérience de vie que je n'avais pas. Donc c'est pour ça que je dis à mes patientes ou qui ont des enfants, vous savez, vos enfants, c'est pas parce qu'ils sont brillants à l'école qu'ils vont être forcément brillants dans la vie. Il faut leur apprendre la vie, l'expérience de la vie. Ça, je l'ai appris à mes dépens, mais je l'ai appris, ça m'a rendu service. Je suis aussi quelqu'un peut-être qui n'écoute pas trop les conseils, qui peut être têtu, et ça aussi c'est mauvais. J'ai appris aussi maintenant à écouter les gens et à me dire, je suis pas obligée de vivre une mauvaise expérience pour en tirer profit. Je peux aussi écouter les gens et croire en leur expérience, en leur vécu. Donc oui, quand on consacre trop de temps à ses études, on peut occulter certaines parties de sa vie qui sont tout aussi importantes, si ce n'est plus importantes.
Donc c'était un petit peu compliqué le démarrage professionnel, parce qu'à ce moment-là, tu étais enceinte, sur le
Je
point
Je venais d'accoucher.
D'accoucher,
divorcer. Et donc j'ai fini mes études de spécialité. J'accouche, il fallait que j'ouvre un cabinet parce que financièrement, il fallait nourrir mon fils. C'était très dur parce que j'ai eu beaucoup de complications post-accouchement. J'étais dévastée psychologiquement. Sur le plan santé, ça n'allait pas du tout. Mais j'avais un moteur, mon fils. Je me disais, il n'a pas choisi de venir au monde. Il est là, je dois assumer. Et donc, 3 semaines après mon accouchement avec complications, il fallait que je cherche un cabinet, il fallait que j'ouvre mon cabinet. J'avais pas d'argent du tout pour démarrer. J'avais pas droit au crédit bancaire parce que j'étais bénévole. Donc, j'avais pas de statut particulier. Et les choses se sont faites. Bien sûr, il m'est arrivé souvent de perdre foi, d'être pas bien, d'être dépressive, de pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais je me relevais toujours parce que je me disais, je n'ai pas le choix. Vous savez, c'est comme l'histoire de Tarek Ben Ziyad quand il est parti en Espagne et qu'il a brûlé tous les bateaux et qu'il a dit à ses troupes, l'adou amamakum wal bahru waraakum. Plus le choix.
Ouais.
C'est exactement comme ça que je me disais, Leïla, tu n'as pas le choix. Tu dois rebondir. Parce que tu as un enfant qui dépend de toi, qui n'a rien choisi de tout ça. Ni il a choisi le conjoint, ni il a choisi la séparation, ni il a choisi. Donc tu dois rebondir. Mais je vivais avec des freins. Des freins de mon passé. J'avançais en regardant derrière moi. Tout ce que j'ai raté, tout ce que je n'ai pas réussi. J'estimais que j'étais quelqu'un qui n'avait rien réussi parce que j'avais échoué dans ma vie conjugale. Il m'a fallu beaucoup d'années et beaucoup de travail sur moi avec des coachs. J'ai tout fait, hein. Coach, magnétiseur, psychologue, psychiatre. Je suis passée par tout le monde parce que j'avais un sentiment de culpabilité qui me rongeait et qui m'empêchait d'avancer.
Culpabilité vis-à-vis de ton fils ou bien
vis-à-vis de moi, de ce que j'ai vécu, vis-à-vis du fait que je n'ai pas réussi ma vie conjugale, vis-à-vis de mon fils, vis-à-vis de beaucoup de choses. J'ai toujours vécu dans la culpabilité et dans la rancœur de me dire on m'a fait du mal, j'attendais peut-être le retour du boomerang. Mais en fait, je me faisais du mal à moi, puisque quand on vit dans la rancœur, l'autre personne, elle ne le sent pas. C'est toi qui le vis, c'est toi qui en vis les conséquences. C'est le jour où j'ai effacé toute rancœur, où je me suis réconciliée avec moi-même, où je me suis focalisée sur moi au lieu de me focaliser sur l'autre, où j'ai cessé de ne plus trop regarder mon passé, où je me suis dit « allez, il faut que j'avance ». Là, j'ai commencé à avancer.
Et tu as senti le changement même au niveau professionnel ?
Ah, je l'ai senti au niveau professionnel, au niveau relationnel, puisque je n'attirais plus des gens négatifs. Je n'attirais plus des gens qui me tiraient vers le bas. J'ai décidé le jour de mes 40 ans, parce que je me suis retrouvée seule un jour d'anniversaire, sans personne autour, et ça a été un grand coup de massue, mais de me dire que quelque part, si j'en suis là, je dois être un peu responsable. Il y a quelque chose que je fais qui certainement explique la situation dans laquelle
donc,
je me trouve.
Donc, trentaine diplômes, 40 ans anniversaire.
Et 10 ans entre les temps, catastrophe.
Moi, donc, je dirais... 10 ans. Donc, de 20 à 30, c'était les études... Kraya. 30 ans, 40 ans.
Et c'est... bien sûr, à 28 ans, je me suis mariée. Donc, pendant 3 ans, ça a été quand même très, très dur. Moi, je dirais que j'ai passé 10 ans de tunnel noir dans ma vie. Mais le tunnel noir, genre, je ne voyais pas le bout. J'étais très malheureuse et je me disais, Yarbi tsmahliya, aujourd'hui, je dis Yarbi tsmahliya parce qu'il ne faut jamais perdre foi en Dieu. Je me disais, jamais je ne serai heureuse. J'avais la conviction inébranlable. Plus jamais je ne serai quelqu'un d'heureux. Et Dieu m'a donné tort. Parce que, alhamdoulilah, au final, Rabbi kimtahna. D'une manière ou d'une autre, en vit dans cette vie, on n'est pas au paradis. Hein. Il faut absolument qu'on passe par certaines expériences. Lui, il sait à ce moment-là pourquoi, même si nous, on ne le sait pas. Ça, j'ai appris 10 ans plus tard que finalement, il fallait que je passe par ce process pour me remettre en question. Pour dire qu'est-ce que je ne fais pas de bien dans ma vie, qu'est-ce que fait que je peux attirer ce genre de personnes et ce genre...
Qu'est-ce que tu faisais justement qui attirait ce genre de personnes et qui a fait qu'un jour tu t'es retrouvée à fêter le milestone important d'une vie qui est la quarantaine pour une femme et un homme aussi, à être seule ?
Seule. Moi je pense que c'est que je ne m'aimais pas. Du tout. J'estimais que je
tu
n'avais...
Tu savais que tu ne t'aimais pas ou...
Je
ou
ne
c'est
le savais pas.
Que tu le sais.
Je ne le savais pas. Le processus s'est fait doucement. J'avais l'impression dans ma tête, moi déjà quand j'étais petite, je me trouvais très moche. Quand je me regardais dans une glace, limite si j'avais pas horreur de mon image. Et donc ce manque de confiance a fait que j'étais, à l'intérieur, j'étais ratatinée sur moi-même. Et je n'attirais que des choses négatives. Donc il a fallu que je finisse par comprendre que si moi je ne m'aime pas, comment pourrait-on m'aimer ? Il fallait que je me réconcilie avec moi-même. Ça ne s'est pas fait rapidement, hein, Yasmine. Ça a demandé des années et des années où je tombais, je me relevais, je tombais, je me relevais. J'essayais de changer des choses en moi et de décider. Un jour, je me suis dit, j'avais lu un livre qui s'appelle Le Secret, je pense que tu le connais. Et il m'a appris des choses, ce livre, en me disant que tu ne vas attirer que ce que toi, tu as envie d'attirer. Et je me suis dit, je ne veux plus être entourée de gens négatifs. Je ne veux plus être entourée de pervers narcissiques. Je ne veux plus être une victime de pervers narcissiques. Et le process s'est fait à travers des expériences où je continuais à attirer des pervers narcissiques, mais à des reconnaître, hommes. Oui, même des femmes. Mmh. Et à les reconnaître et à ne pas accepter qu'on me maltraite. Mmh.
C'est quoi le... On n'entend pas beaucoup parler du profil du pervers narcissique, mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'on met ce terme à toutes les sauces.
Oui.
Qui est, selon ton vécu à toi, en tant que femme, qui est le pervers narcissique? C'est quoi le l'ID de...
Pour le résumer, je dirais c'est la personne qui va faire de toi son souffre-douleur, qui ne peut être bien que lorsque toi, tu es mal, qui va faire en sorte de te pousser à réagir par tous les moyens et que quand tu vas réagir, il va te dire, bah, tu vois, c'est toi qui est responsable de tout ça, qui va te vivre dans un sentiment de culpabilité H24. Tu vas subir du harcèlement moral, tu vas subir du harcèlement physique, tu vas subir du harcèlement verbal, jusqu'au jour où tu deviens comme une loque humaine. C'est-à-dire tu n'as plus aucune fierté, tu n'as plus aucune dignité, tu estimes que tu ne vaux absolument rien. Et en même temps, tu n'arrives pas à te retirer de cette relation.
Pourquoi ?
Je ne peux pas t'expliquer. Mm. C'est des personnes qui ont une telle emprise sur toi, qui te font tellement peur que tu n'arrives pas, tu as l'impression que tu ne vaux plus rien. Ou pire, que tu mérites ce qui t'arrive. Mm. Parce qu'ils sont très forts dans l'art de la manipulation et de la culpabilisation. Donc quand il arrive un problème, tu te dis, j'ai dû faire ou dire quelque chose qui fait que la personne a réagi comme ça, même si tu n'as rien fait et que tu n'as rien dit. Et donc, tu vas faire un travail supplémentaire sur toi. Et plus tu fais ce travail, plus tu deviens une victime idéale. Puisque elle se nourrit de ça, du mal qu'elle peut te faire. Alors, si toi, tu ne sais pas comment gérer ce genre de personne et que tu acceptes et que tu lui montres qu'elle arrive à t'atteindre, t'es...
Et on dit qu'en parallèle, l'extérieur ne peut rien voir parce que ce sont des personnes qui ont une image parfaite. Donc, je comprends finalement quand tu as dit « je veux divorcer », on ne peut pas te soutenir parce que cet homme a toujours montré une image parfaite de lui-même.
Ah oui, c'est des personnes qui, en public, et elles tiennent absolument à avoir cette image parfaite de la personne gentille, la mradar. Donc, c'est toujours la personne, il n'y a que la personne qui est victime. Qui vit avec.
La femme que tu es aujourd'hui, comment elle va?
Elle est réconciliée avec elle-même. Maintenant, Leïla, elle est copine avec Leïla.
Leïla Ben Ammar, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci pour cette confiance.
Merci de m'avoir permis de dire tout ça.
L'intégralité est disponible en version vidéo sur la chaîne YouTube de Média 1.